Et bonjour les amis, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game, les amis. Petit podcast aujourd'hui qui ne va pas faire l'unanimité. Petit podcast qui va encore être à rebours, hein, à rebours de la, du droitardisme qui aujourd'hui étend ses tentacules et préempte comme ça de manière massive les milieux dits patriotes, nationalistes, appelez-les comme vous voulez, identitaires, ce que vous voulez. Le droitardisme, voilà. Alors, il y a un débat en ce moment qui a été lancé sur que recouvre la notion de droitardisme. Alors, contrairement à ce qu'on pense, le mot droitardé n'a pas été inventé par les gauchistes. C'est un mot qui existe depuis un moment et qui désigne cette droite qui est, dirons-nous, israélo-compatible. Moi, je propose d'étendre cette définition à la droite, y compris islamo-compatible, ou à la droite, tout simplement, qui ne soit pas tournée vers le Christ. Pour moi, le droitardisme, c'est la volonté. C'est une volonté nationaliste ou patriote ou ce que vous voulez, qui exclut la notion de cadre spirituel ancré dans le christianisme. Alors, je démarre avec un petit peu des notions très brutales, très globales et peut-être même un peu complexes, même si ceux qui sont un peu rompus à cette pensée me comprendront immédiatement, mais je vais quand même m'expliciter pour ceux d'entre vous qui auraient le moins de notions de tout ça, de bien décortiquer en fait ces phénomènes, pour vous expliquer en fait quelle est la nouvelle tendance qui surplombe aujourd'hui la droite et qui la maintient dans une incapacité, si vous voulez, d'obtenir quoi que ce soit de viable à long terme. Hein, je parle à long terme, elle a des victoires dans les médias, mais sur le long terme, civilisationnellement, ces victoires n'en sont pas. Elles sont même, en réalité, je pense, des défaites maquillées. Bon, alors, je vais m'expliquer, hein, parce que là, je donne beaucoup d'informations. Alors, le mot « droitardé », donc, a été assez popularisé par Antoine Goya, donc, qui est un espèce de commentateur qui se situe à l'extrême gauche, hein, qui désignait par cette appellation. Alors, ce n'est pas lui qui a inventé le mot. Hein, le mot existait, c'est un mot qui a été inventé, donc, je vous disais, par un segment de l'extrême droite qui reprochait à la droite israélo-compatible de ne pas comprendre que la droite israélo-compatible est un cul-de-sac. Bon. Donc, ça a été repris par la gauche parce qu'il y a des liens entre la droite antisémite et la gauche antisémite non déclarée, mais qui l'est quand même structurellement. Il y a des liens entre ces deux extrêmes droites-là. Et d'ailleurs, ce lien a été un petit peu officialisé par l'œuvre et les projets d'Alain Soral, donc, qui récupère un petit peu les antisémites de droite, style Rivarol et compagnie, et qui fait la jonction avec les antisémites de culture maghrébine, ou de culture musulmane, chiite ou sunnite d'ailleurs, puisqu'il arrive là-dedans à mettre à la fois les chiites iraniens et les sunnites du monde arabo-musulman. Donc il y avait un peu cette jonction qui avait été faite par Alain Soral, hein, le fameux front de la foi. Le front de la foi qui devait réunir donc les catholiques traditionnalistes et les musulmans. Alors, ce projet était un peu voué à l'échec pour des raisons en fait purement doctrinales. Hein. C'est-à-dire que quand on est véritablement musulman, ou quand on est véritablement catholique, on se rend vite compte que on ne peut pas tout simplement prendre pour allié un autre des trois monothéistes, hein, des trois monothéismes, pour des raisons purement doctrinales. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la notion de « le Christ est-il le fils de Dieu ou pas ?» À partir du moment où la réponse est « oui », vous pouvez avoir un allié en la personne que vous avez en face, donc typiquement un orthodoxe ou même un protestant, peuvent être des alliés civilisationnels en ce sens qu'ils reconnaissent la divinité du Christ. Et puis ensuite, vous avez les deux autres monothéismes, que sont donc l'islam et le judaïsme, qui ne peuvent pas être des alliés civilisationnels de long terme. Ils peuvent être des alliés civilisationnels de circonstance. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans l'histoire. Mais ils ne peuvent pas être des alliés civilisationnels pour la bonne et simple raison qu'il y a un antagonisme indépassable qui est celui de la considération ou non de la divinité du Christ. Alors, j'en parlais dans mon dernier podcast consacré à la guerre Iran-Israël qui, grâce à Dieu, a pris fin et ne va pas embarquer le monde dans une troisième guerre mondiale extrêmement dommageable. Mais c'est intéressant parce que la question reste en suspens, c'est une question qui n'est pas traitée ou qui est mal traitée. Et c'est une question, donc je vous le disais, qui est partagée entre deux grands pôles d'attraction, desquels il est très très dur de se dissocier. Donc vous avez le pôle d'attraction, comme je vous expliquais, je reviens très rapidement dessus, mais c'est pour bien clarifier. Vous avez le pôle d'attraction CNewsien, d'accord, donc CNews, toute cette cosmogonie de droite, donc qui fait des ponts entre juifs de droite, franc-maçonnerie, patriotisme laïcard, valeurs de la République. Donc ça, ça inclut, ben en fait, ça élimine la question religieuse puisque ça inclut des juifs de droite qui n'en demeurent pas moins des juifs. Ça exclut la question religieuse via l'adhésion très très forte à la laïcité. Laïcité qui est un dogme très très fort d'une certaine droite qui pourtant est tirée de la Révolution des Lumières qui a mis fin à la France. Donc c'est très paradoxal de vouloir ressusciter la France via des préceptes qui sont tirés d'une pensée qui a été constituée pour détruire la France précisément. Donc c'est un cul-de-sac. Et ensuite vous avez cette autre droite qui traite tout le monde de sioniste ou de judéo-servile. Parce que elle estime que le français moyen est tellement anecdotiquement puissant qu'il aura besoin de s'affilier aux forces vives de l'islam pour vaincre ce qui est appelé l'empire, donc l'axe américano-sioniste. Et donc, pour revenir à la France des années 60, il va falloir être copain avec les Coréens et trouver que l'islam, c'est une bonne chose. Voilà, je crois que j'ai résumé de manière assez, on va le dire, hein, un peu simpliste le soralisme, mais c'est quand même peu ou prou ça qui nous est proposé, c'est-à-dire de devenir copain avec les musulmans pour se débarrasser des juifs. Hein. Très clairement, on va pas se mentir, c'est ça la doctrine. Bon. Il y a une troisième voie qui est très très peu représentée, car elle n'a que très très peu d'appui, comme toujours. C'est la voie de pas de négociation. Nous nous sommes constitués en tant que nation, en tant que chrétiens. Nous devrons nous remobiliser et renaître en tant que chrétiens. Voilà. C'est le chemin le plus logique, mais c'est aussi le chemin le plus dur, car il ne bénéficie pas d'appui. Alors, qu'est-ce que j'entends par appui ? Et c'est là on va rentrer un peu dans des considérations qui sont très pragmatiques. CNews, c'est franc-maçonnerie compatible, c'est Talmud compatible. Donc, comme vous ne l'ignorez pas, vous pouvez effectivement glaner de fortes sommes d'argent via l'affiliation aux francs-maçons qui, dans les très hauts degrés, comportent beaucoup de millionnaires, voire de milliardaires. Et vous avez de l'autre côté une affiliation à la démographie puissante des musulmans d'Europe qui ne cessent de s'agrandir. Donc en fait, je pense que Soral a fait un calcul très simple. Il a vu que les Blancs se reproduisaient de moins en moins. Il a vu que les Blancs étaient de moins en moins puissants. Donc il s'est dit, nous n'arriverons à rien avec tous ces Blancs-là. Donc il nous faut absolument faire front avec le monde musulman qui, lui, est très vivant du point de vue démographique. Alors, il ne l'est pas en termes de puissance belliciste. On l'a vu avec le conflit Iran-Israël. Le monde arabe a été catastrophiquement inactif et a débandé immédiatement quand il a s'agit d'ajouter les actes à la parole. On a vu un président Tebboune qui avait fait de grandes déclarations sur sa capacité à envoyer des contingents d'Algériens dans la grande guerre contre Israël. Et puis finalement, il ne s'est rien passé. Ce qui rend complètement ridicule, d'accord, d'ailleurs, les reproches qui sont faits au roi du Maroc d'être stratégiquement intelligent en ne se mettant pas le monde, enfin, en ne se mettant pas Israël à dos et en n'ayant pas eu besoin de participer à la guerre Iran-Irak. Je pense que la séquence à laquelle nous venons d'assister montre à quel point le Maroc a été malin dans l'établissement de sa stratégie, de sa géostratégie, en ne se présentant pas comme un antagonisme à Israël, mais en n'étant pas non plus dans la collaboration avec Israël, ce qui est très intelligent. Alors que l'Algérie a dit qu'elle était prête à aller jusqu'en enfer avec l'Iran. Et puis, quand il a s'agi de joindre la parole aux actes, il y a eu ce qui se passe toujours hein, en ce qui concerne les déclarations d'Algériens. Je suis désolé de le rappeler, mais c'est un pays qui est très aimé de loin et c'est un pays qui a beaucoup de volonté pour lui-même de loin. Donc le président Tebboune a sorti des drapeaux algériens en disant... il a sorti des drapeaux iraniens en disant « Tah Iran ». Tahia Iran, et en fait, quand il a s'agi d'y aller, il n'y est pas allé. Voilà. Quand il a s'agi de faire une hijra militaire, il y a eu incapacité de bouger l'armée algérienne, mais tout simplement parce qu'elle n'est que très peu opérationnelle. À domicile, c'est une chose. Après, projeter une armée à l'extérieur comme ça, c'est une autre paire de manches. Voilà. Donc, disons-le, on a bien vu que le monde arabe a une très forte démographie, a une influence sur les réseaux, puisqu'il y a beaucoup de prédicateurs. Mais dans les faits, militairement, ça reste un cafard qui peut être écrasé par la Rangers américano-sioniste dans la minute. Voilà. Donc, si vous voulez, on a deux grandes possibilités, deux grands chemins qui se sont avérés être des culs-de-sac. Le premier, pour des raisons purement doctrinales, et parce qu'en fait, il n'a pas été question du Christ dans cette croisade contre l'Iran, et il n'a pas été question non plus en réalité du Christ quand on va dire les Soraliens ont fait l'impasse sur les problèmes qui affectent le Moyen-Orient, sur les massacres qu'il y a en Syrie de Al-Junani. Alors Al-Junani, effectivement, c'est un peu c'est un djihadiste allié d'Israël qui a été mis au pouvoir en Syrie à la place de Bachar al-Assad. Il se trouve que parce que à chaque fois j'entends les musulmans me sortir les mêmes arguments. Oui, mais les terroristes sont financés par Israël. Oui. Ils prennent l'argent d'Israël. Effectivement, c'est prouvé aujourd'hui. Hein. Israël a beaucoup financé... c'était prouvé déjà dès le départ. Moi, je me rappelle des documentaires de France 2. Au tout début de la guerre en Syrie, dans ce qu'on a appelé le printemps arabe, qui était en fait le printemps djihadiste, faisait la promotion des moudjahidines qui se battaient contre Bachar al-Assad et qui étaient les mêmes moudjahidines qui ont fini par se faire péter au Bataclan... Et dans la rédaction de Charlie Hebdo. Donc, si vous voulez, oui, c'est Israël qui finance une partie des djihadistes, mais les djihadistes, eux, sont des musulmans. Personne ne leur a braqué un pistolet sur la tempe pour les faire devenir musulmans. Moi, je vois beaucoup de musulmans qui traitent Al-Junani de juif. Non, Al-Junani est un arabe sunnite qui prend l'argent là où il est si ça lui permet de tuer des chrétiens. Bon. Et Bachar al-Assad était un protecteur des minorités. Et il a été donc déstabilisé par les djihadistes, même financé par Israël. Donc on voit bien que dans la réémergence de la question chrétienne, Israël ne peut pas être un allié pour des questions religieuses, puisque je vous rappelle que Jésus, aux yeux des Juifs, est un imposteur, ou à tout le moins, c'est quelqu'un qui s'est trompé, voilà, il n'est pas le Messie. Et aux yeux des musulmans, donc, Jésus n'est pas le fils de Dieu. Voilà, Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas le fils de Dieu. Ce qui pose quand même un petit problème quand on sait à quel point la divinité du Christ est fondatrice dans la culture française et à quel point le catholicisme a baigné de ses préceptes la culture française. Et donc, il y a cette troisième voie qui est incarnée donc par le catholicisme. Et le catholicisme est très seul. Le catholicisme... Et actuellement, dans l'état pratiquement où il était, dans l'état où il était au début de son existence, quand il devait se pratiquer en cachette dans les catacombes de l'Empire romain, hein, voilà, à l'abri des regards, c'était un catholicisme souterrain, un catholicisme de contrebande, et c'est ce qui lui a donné d'ailleurs cette force. Hein. C'est le fait d'être chahuté qui a permis au catholicisme de vraiment devenir une religion majeure, en fait. Puisque vous savez que tout ce qui est prohibé et interdit et qui pourtant n'a rien à gagner, puisque le catholicisme n'est pas quelque chose... On ne vous promet pas du matériel, on vous promet du spirituel. Donc si ça a fédéré autant de gens, c'est qu'il y avait quelque chose. Hein, voilà. il y avait quelque chose qui était quand même qui interrogeait dans cette religion. Bon, alors on n'en est pas à ce point-là. Aujourd'hui, vous pouvez tout à fait vous rendre à l'église sans être persécuté. Quoique, avec les instruments modernes, le catholicisme continue d'être beaucoup moqué, d'être beaucoup humilié, d'être beaucoup discrédité par les journalistes, par certains musulmans, pas tous, et par certains juifs, pas tous non plus, qui s'en prennent donc à cette religion par, des par les moyens qu'ils peuvent. Donc les musulmans, ça va être casser des vitraux avec des cailloux, faire de la trottinette dans les églises, hein, c'est des images qu'on a vues. Et chez les juifs qui ont un petit peu plus de moyens, ça va être plus de manière détournée avec des films d'horreur où les méchantes sont des nonnes, voilà, c'est toujours des couvents qui sont baignés de satanisme. C'est toujours des allusions assez... c'est soit des allusions ridicules, soit des allusions horrifiques à tout ce qui a trait au catholicisme. Donc, nous sommes dans une doctrine qui est très, très difficile, parce qu'en plus, c'est une doctrine qui ne vous berce pas d'illusions. Elle ne vous dit pas « on va y arriver grâce aux Arabes ». Elle ne vous dit pas « on va y arriver grâce à l'argent des millionnaires ». Elle vous dit « on va y arriver grâce à la croyance que nous avons en une espèce de charpentier qui était drapé de toile de jute et qui a vécu, et qui est mort et qui a ressuscité il y a 2000 ans en Palestine ». Donc évidemment, entre la force de frappe démographique des Arabes et l'argent des millionnaires, il est quand même très, très, des milliardaires pro-Israël, il est très très difficile de faire une place à cet homme, à ce charpentier de rien du tout, qui vient annoncer la parole de Dieu comme ça en Judée, au sein du grand empire romain, qui va se faire trucider, torturer, mutiler par de simples hommes pour l'amour de Dieu et pour montrer la puissance de Dieu et pour vaincre la mort puisqu'il va ressusciter. Donc évidemment, le catholicisme a beaucoup de mal à séduire. La solution spirituelle, c'est-à-dire le regroupement des hommes autour de ce petit charpentier de rien du tout qui a vécu et qui est mort et qui a ressuscité il y a 2000 ans, est quand même beaucoup moins sexy que les millions qui sont proposés à CNews, que les millions qui sont proposés à telle chaîne de droite, hein, enfin les millions j'exagère, mais à la promesse de pas se faire égorger parce que vous aurez été suffisamment gentil avec les Arabes qui vous prendront en pitié quand ils seront majoritaires et qui ne vous égorgeront pas comme ils l'ont fait en Iran, en Afghanistan, au Pakistan, en Syrie, au Liban, et j'en passe. Donc, bon, pour ceux qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire beaucoup de Soraliens... Alors, c'est rigolo parce que, quand même, avec le temps, les Soraliens blancs, qui peuvent aimer Alain Soral pour, effectivement, le bon travail qu'il a fourni sur certaines questions, qui est indéniable, hein, il faut le dire, il faut pas être de mauvaise foi. Alain Soral a fourni du bon travail sur certains thèmes. Cela dit, l'obsession pour la question juive et l'aveuglement sur la question musulmane ont amené, je crois, son combat à une sorte de plafond de verre. Et de l'autre côté, on a une droite très humiliante qui met les questions christiques de côté pour finir par valider la gay pride patriote. Alors ça, c'est quelque chose qui est tombé hier. Donc c'est une transition parfaite pour vous parler un petit peu du droitardisme, parce que vous le savez, je suis très sévère et très critique à l'endroit du soralisme, bien avant que ce soit la mode. Moi j'ai tenu bon depuis, même quand Soral était à son zénith, j'étais déjà en train de lui asséner les réalités qui viennent aujourd'hui un petit peu toquer à la porte de son combat, hein, et des limites de ses réflexions. Donc je disais, on a la validation par le droitardisme de la gay pride patriote. C'est-à-dire, je résume, évidemment, je vais être caricatural, évidemment, c'est de l'humour, je grossis le trait, mais qui est la question de, on veut s'enculer tranquille, sans la pression du djihad et des préceptes de l'islam qui nous empêchent d'être des sodomites heureux dans un Occident décadent. Voilà, grosso modo, c'est ça le truc. Alors, on va aborder cette question de l'homosexualité très rapidement. Il y a toujours eu des homosexuels, quelles que soient les époques. Il y en avait même au Moyen-Âge. La différence avec aujourd'hui, c'était que c'était des gens qui vivaient cette sexualité dans l'intimité, comme le font les hétérosexuels. Je ne connais pas à ce jour de grandes manifestations des hétérosexuels pour réclamer leur identité d'hétérosexuel sur des chars harnachés de cuir qui font des pains en forme de bite, comme c'est le cas dans les boulangeries du Marais, vous voyez. Il n'y a pas cette obsession, cette hypersexualisation de soi et de son identité de la part des hétérosexuels. Alors, je ne sais pas s'il est interdit du point de vue juridique de parler de normalité en parlant des hétérosexuels et d'anormalité en parlant des homosexuels. Je ne sais pas si la loi punit ou pas le fait de dire que les homosexuels ne sont pas normaux, mais on va faire un petit peu de sémantique, cela dit, qui est très importante. Le mot « normal » vient de « norma » en latin, et la « norma » en latin, c'est la moyenne. La moyenne. La moyenne, qu'est-ce que c'est ? La moyenne, c'est une valeur indicative de la plus grande proportion ou de la proportion moyenne des éléments hétéroclites qu'il peut y avoir dans une société donnée ou dans une séquence numéraire donnée, numérique donnée, d'accord ? Donc, par exemple, il y a... alors, je suis nul en mathématiques, d'accord ? Je suis nul en mathématiques. Si vous avez, par exemple, une moyenne de 1, si vous avez deux individus, il y en a un qui est 1 et il y en a un qui est 5, la moyenne, donc, ce sera quoi ? Ce sera 3, c'est ça ? Je suis nul. Hein. Je suis nul complètement en maths, mais je crois que c'est ça. La moyenne de cette société, s'il y a un 1, un 5, la moyenne de société, c'est 3. Donc, 3 est la norme. Si vous avez 205 et 2, 1, la moyenne, ça va être 4,99999. Enfin, j'en sais rien, je suis nul en maths. Hein. J'aurais pas dû m'aventurer dans les conceptions mathématiques, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, la normalité vient de norma en latin, qui est la norme. Quelle est la norme de la société, des sociétés en général ? La norme, c'est que pour qu'une société existe, il faut qu'il y ait une majorité d'hétérosexuels qui font des enfants. Ces enfants se reproduisent et perpétuent la société. Elle perpétue son fonctionnement. Les paysans qui ramassent le blé ont des enfants, qui à leur tour vont ramasser le blé ou s'orienter vers d'autres métiers. Et donc la société tient de cette façon, en ce sens que l'héritage est fructifié par les enfants qui sont conçus par des rapports sexuels hétérosexuels. Parce qu'en fait, si vous avez un paysan qui est homosexuel et qui fauche le blé, et qu'il y a un autre paysan qui a un autre métier qui le sodomise, il ne va pas y avoir de division cellulaire quand le spermatozoïde rentre en contact avec la matière fécale. Puisqu'au fond de l'anus, il y a l'intestin, et dans l'intestin, il y a du résidu fécal. Donc, la semence, le spermatozoïde, quand il est projeté, alors je ne sais plus quelle est la vitesse d'une éjaculation, mais quand il est projeté au fond d'un anus, la seule chose qu'il peut rencontrer, c'est la matière fécale. Ce n'est pas un ovule. L'ovule, il est au fond de l'utérus de la femme. D'ailleurs, c'est pour ça que la levrette est aussi agréable, c'est que t'es au maximum de la profondeur, et quand tu tires un coup de canon, eh ben t'as tous les petits spermatozoïdes qui vont rencontrer l'ovule, va se faire la division cellulaire, va venir un enfant qui va être tributaire, hein, ou pas d'ailleurs, hein, de la culture de ses parents et de l'héritage de ses parents et de leurs parents avant eux. Bon. Donc les homosexuels font partie de la nature, il y en a toujours eu. En revanche, ils ne sont pas dans la norme, voilà. Sauf qu'avant, jusqu'à très récemment, la norme n'était pas, comment dire, les segments de la nature qui n'étaient pas dans la norme n'avaient pas une préemption de représentation sur la norme. C'est-à-dire que la société est organisée autour de la norme, c'est-à-dire autour du confort du plus grand nombre. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que la société française, elle est organisée pour des gens qui sont des Français, qui parlent français, qui mangent français, qui vivent à la française, et du coup elle est moins agréable pour des gens qui sont par exemple pas français, pas de culture française, qui ont une autre religion que les Français. Donc c'est normal, et c'est pareil si je vais dans un autre pays, si je vais au Maghreb, la société est organisée pour les Maghrébins, à majorité musulmane, elle est organisée pour sa norma, et la norma de l'Algérie ou du Maroc, c'est d'avoir une majorité de musulmans, d'avoir une majorité de gens qui parlent le darija ou je sais plus comment on appelle le dialecte algérien. Donc voilà, mais ce qui est normal, c'est normal, l'Algérie est organisée pour les Algériens, le Maroc est organisé pour les Marocains, la France doit être organisée pour les Français. Le Maroc, l'Algérie et la France sont organisés plutôt, sont tournés plutôt vers les hétérosexuels, quoique pour la France, malheureusement, ce soit de moins en moins le cas, mais c'est pour des questions de normes. Voilà. Donc, quand vous êtes français, mais que vous avez la peau noire, évidemment, vous allez avoir un peu moins de choses qui sont taillées pour vous, parce que vous êtes chez, historiquement, les Gaulois. Et si un Gaulois va au Congo, eh ben, il sera historiquement chez les Bantous, et du coup, ben, la société sera moins adaptée à sa façon de voir les choses. C'est-à-dire que les horaires peuvent être variables, l'intimité, elle est moins grande, mais de l'autre côté, ben, il y a plus d'entraide, la famille est omniprésente, il y a moins d'angoisse parce que il y a une conception de la vie qui est peut-être moins sur la projection et plus sur le fait de profiter et d'éprouver des sentiments agréables au jour le jour. Donc voilà, les milieux sont adaptés à leurs normes. Bon. Et là, on a donc une droite qui commence à nous présenter des homosexuels qui ont des revendications. C'est-à-dire qu'ils aimeraient qu'on dégage les musulmans parce que, eh ben, en fait, c'est moins agréable de s'enculer quand il y a une proportion de gens qui considèrent que les homosexuels doivent être pendus à des grues. Ça, je peux le comprendre. Après, il y a une solution qui est très simple et qui a toujours été utilisée quand on avait envie de s'enculer, quand il y a du monothéisme. Les homosexuels se reconnaissent entre eux. Ils se sont toujours reconnus entre eux. Rien ne les empêchait à une époque de se filer rendez-vous et de s'enculer joyeusement en allant faire de la rando. Vous savez, moi, je pars avec mes potes faire de la rando. Qu'est-ce qui empêche deux homos d'aller faire une rando? À la différence que nous, on se fait une tartine de pâté, ils peuvent se faire une tartine d'enculade, si tu veux. Tu vois, nous, on s'arrête, on bivouaque. Eux, ils s'arrêtent, ils s'enculent. Puis, ils peuvent bivouaquer après, rien ne les en empêche. Et ils peuvent aussi se faire des tartines de pâté. Mais ils peuvent se caler une sodomie entre-temps, tu vois. Rien ne les empêche de le faire. Ils vont dans la forêt, ils s'enfilent. Ou ils donnent rendez-vous, je sais pas où, ils s'enfilent. Et point final, et personne va venir leur demander des comptes. Les homosexuels ne sont pas apparus avec la modernité. Il y a toujours eu des homosexuels. Il y a aussi des homosexuels en Afrique. Les homosexuels en Afrique, l'homosexualité en Afrique est très très mal vue. Ils s'organisent, ils se filent rendez-vous dans des coins, ils s'enculent et puis voilà, ils vivent leur truc et puis ils emmerdent personne et ils font pas de politique et tout va bien. Bon. Et là, on constate, si vous voulez, à droite, une très grande perméabilité à tout ce qui pourrait, au nom de la lutte contre l'immigrationnisme de masse, être bénéfique. C'est-à-dire que tu es un dégénéré fini. Tu es un communiste mental, ce n'est pas grave, à partir du moment où tu détestes l'islam, viens, vas-y, tu fais partie du camp national. Voilà. Moi, ça, c'est la définition que je donnerais au droitardisme. Donc, pour moi, le droitardisme, c'est à la fois la droite CNews qui peut faire la promotion de l'homosexualité au nom de la liberté individuelle, sans cadre moral et sans cadre civilisationnel, et de l'autre côté, la droite qui se dit patriote, mais qui a de très fortes connexions avec la planète couscous. Bon. Ça, si vous voulez, dans les deux cas, on se fourvoie parce que de ces alliances qui ne sont pas des alliances de normes, nous ne pourrons pas refaire émerger une société de normes. Bon. Alors, me répondront à cette affirmation le groupe dit des racialistes qui pensent que la race passe devant la religion et la politique, ce qui, en un sens, n'est pas faux puisque l'héritage génétique, c'est aussi l'héritage culturel, c'est aussi l'héritage historique. Donc évidemment qu'un pays avec 51% d'extra-européens n'a plus rien à voir avec un pays de 99,9% de Gaulois. Évidemment, ça personne ne le nie, mais d'ailleurs, je veux dire, personne n'a jamais nié ça. Mais le fait de faire passer la race avant tout présente également le problème qu'à la fin, vous avez des gens qui ont des vies complètement dissolues, qui sont des partouzeurs, des homosexuels, qui sont des gens qui sont des communistes mentaux, qui sont macrono-compatibles, pro-vaccins, tout ce que vous voulez, qui sont pro-guerre contre l'Iran alors que ça va tuer ce qu'on a de meilleur, c'est-à-dire nos forces spéciales, qui sont peut-être que la France a à offrir de meilleur. Donc si vous voulez, on a des mecs qui à la fin se retrouvent par racialisme à avoir des dessins et des projets pour la France et qui sont contre l'intérêt de la France. Donc, si vous voulez, ça, c'est pareil. C'est une voie qui exclut, encore une fois, le Christ et qui ne peut pas présenter de renaissance pour le camp français. Alors, qu'est-ce que le camp français? Qu'est-ce que la France? C'est quand même important de le définir. Et pourquoi je n'adhère ni au racialisme, ni au droitardisme talmudo-compatible, ni au droitardisme marxisto-sunnite soralien. Pourquoi je rejette ces trois propositions-là, bien qu'il y ait beaucoup de passerelles entre la droite israélo-compatible et la droite racialiste. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de racialistes qui sont très pro-droite israélo-compatible, mais qui ne seront jamais validés par cette droite israélo-compatible parce qu'il y a la question de la Shoah qui empêche les juifs de droite de donner une validité à la volonté d'épuration raciale des racialistes. C'est-à-dire que, comme disait Frantz Fanon, noir tend l'oreille car quand on parle du juif, en réalité on parle de toi, mais l'inverse est aussi vrai. Une société qui veut se débarrasser de ses noirs ne tardera pas à se débarrasser de ses juifs en suivant. Donc, si vous voulez, l'adhésion du juif au retour de la France trouve sa limite dans le fait qu'une fois qu'il y aura eu une épuration ethnico-religieuse, dans les deux cas, la question juive va se poser. Bon, donc le cul-de-sac droitardier se heurte à la sensibilité des juifs sur la question de l'épuration religieuse ou raciale à laquelle ils ont dû faire face tout au long de leur histoire. Je rappelle que les juifs ont été épurés religieusement en Espagne, au Portugal, et ont été épurés racialement en Europe de l'Est pendant de nombreuses séquences historiques à de nombreuses reprises. Donc évidemment qu'un discours qui vise à refaire du peuple gaulois un peuple exclusivement de Gaulois va se heurter à la marge de manœuvre que doit garder un juif quand il est dans un pays. Il faut qu'il y ait un peu de multi-ethnique et un petit peu de multiconfessionnel parce que sinon, le prochain sur la liste, c'est lui, c'est le juif. D'ailleurs, le juif n'a été considéré comme faisant partie de l'Occident que très très tardivement. Il y avait une intervention d'une écrivaine je crois que c'était Blast, dont j'ai oublié le nom, qui était assez intéressante parce qu'elle disait qu'il y a eu une mutation de la considération du juif par l'extrême droite jusqu'à très très récemment, jusqu'au 19e siècle. Le juif était un paria, un oriental, et il n'est devenu un allié de l'Occident que quand l'Orient a commencé à décoloniser et à affronter l'Occident de manière beaucoup plus moderne, voilà. Et là, évidemment, le juif s'est posé comme étant un avant-poste des Blancs et de l'Occident en terre orientale, alors qu'avant, il était considéré, et notamment au Moyen-Âge, comme étant un oriental pur. Même les juifs qui vivent en France depuis des siècles, puisqu'il y a des juifs qui vivent en France depuis avant l'invasion romaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est le cas en Haute-Garonne, c'est un exemple que je cite souvent, mais vous aviez des juifs qui faisaient du commerce avec des Gaulois via la Narbonnaise, ou la Tarragonaise, avant l'arrivée des Romains en Gaule. Parce que la Gaule antique n'est pas un Mad Max avec des mecs à moustache et à tresse. Hein. Les Gaulois, même si c'était pas le niveau civilisationnel des Romains, loin de là, étaient des gens qui avaient des normes, qui avaient déjà quand même des routes commerciales, alors qui étaient très côtières. Hein. C'était pas encore des routes qui traversaient le territoire comme ont pu les faire les Romains. Mais vous aviez des Gaulois, avant l'arrivée des Romains, qui faisaient déjà du commerce avec les Juifs, et notamment la tribu des Volques Tectosages, qui avaient leur établissement ethnique autour des rives de la Garonne et de la Lèze notamment. Donc si vous voulez, voilà, la question juive est complexe, elle est ancienne et donc c'est vrai qu'elle mérite un traitement particulier, elle est très complexe, on peut pas la traiter de manière brutale comme ça a été fait avec le soralisme. C'est une question qui mérite réflexion, qui est une vraie question qui a traversé les âges et qui a traversé même notre histoire, puisque d'un souverain à l'autre, cette question était traitée différemment. Elle était traitée d'une façon par un roi, et puis retraitée d'une autre façon par un autre roi. Alors, tantôt, il y avait une forme de bienveillance pour les Juifs, ce qui leur a permis de rester en France à de nombreuses reprises, et de l'autre, des fois, il y avait une très grande hostilité de tels gouverneurs à l'égard des Juifs, ce qui nécessite quand même pour les Juifs de trouver un endroit où ils seront jamais modestés, où ils seront maîtres chez eux. Bon. Et cet endroit, c'est Israël. C'est pour ça que je fais partie des gens qui estiment que les Juifs ont le droit d'avoir une terre qui leur appartienne pour la bonne et simple raison que, de manière très pragmatique, quand ils ne sont pas chez eux quelque part, ils finissent par subir les humeurs plus ou moins négatives de tels gouverneurs. Donc, il était important et même vital pour eux d'avoir une terre. Et c'est en cela que je les rejoins. Quand les Juifs disent « Nous avons l'antisionisme équivaut à un antisémitisme », mais ils ont raison. Parce que s'ils n'ont plus de terre où ils sont maîtres, ben c'est l'extermination et donc la disparition. Et à ce propos... si vous voulez, c'est là où moi, je ne suis pas antisioniste. Je suis critique de la politique d'Israël et de la religion juive, mais je ne suis pas antisioniste en ce sens que je ne peux pas vouloir que ces gens n'aient plus d'influence dans mon pays sans qu'ils aient de l'influence dans leur propre pays. Voilà. Cela dit, la seconde partie de cette réflexion, c'est que maintenant qu'ils ont une terre dans laquelle ils peuvent être maîtres, et une terre d'ailleurs où ils ne se privent pas de faire les politiques les plus violentes à l'égard de leur minorité, il faut qu'ils nous laissent à notre tour redevenir maîtres chez nous. Or, je constate qu'il n'y a pas la possibilité de laisser les Français redevenir autre chose qu'une république pour la bonne et simple raison que la république laisse de l'espace aux Juifs. Les citoyens, les Français, enfin, on va dire les Juifs de France sont devenus des Français parce que la République a fait d'eux des citoyens. Avant la République, ce n'était pas des citoyens égaux avec les autres citoyens français. C'était des minorités, des sujets du roi qui n'avaient pas les mêmes droits que les autres sujets qui eux étaient chrétiens. Donc, si vous voulez, la question de la République pour les Juifs, elle est centrale. La République, qui est paradoxalement l'instrument de destruction de la France, et le système politique qui laisse de la marge de manœuvre aux Juifs. Donc, le problème auquel va se heurter le Juif quand il est sincèrement patriote, c'est ce problème de la République, c'est-à-dire qu'il est pro-républicain en pensant qu'il est pro-français. Or, la République est une machine à détruire la France. Donc, il se retrouve dans une impasse, hein, c'est-à-dire qu'il ne peut pas formuler la volonté d'un retour du roi et d'un retour massif du catholicisme en France, qui serait la seule solution pour sauver la France, parce que justement ce retour du roi et ce retour du catholicisme comme nouvelle loi, qui éclipserait les lois républicaines, ben, sonnerait le glas de la marge de manœuvre pour les Juifs. C'est-à-dire qu'en fait, la France deviendrait ce qu'est devenu Israël, c'est-à-dire un État ethnico-religieux. Donc du coup, plus d'égalité pour les Juifs. Et c'est là le grand paradoxe, et c'est là le nœud du problème, c'est là où le bât blesse. C'est là où, si vous voulez, toute inclusion des Juifs dans le combat national trouve, si vous voulez, une limite. Cette limite, c'est que ce combat-là ne peut pas se faire jusqu'au bout. Parce que le combat pour le royalisme et le retour du christianisme veut dire la fin de la République et donc de la marge de manœuvre accrue pour les Juifs. Donc, si vous voulez, on a cette limite-là. Et c'est pareil pour les musulmans. Le retour d'un catholicisme triomphant en France sonne la fin des coraneries et des mohammederies et des islameries. Pourquoi ? Parce que si Jésus est le fils de Dieu, se vouer à un culte qui estime qu'il ne l'est pas égale être antinational. Être antinational égale adios. La porte, c'est par là. Donc, ni musulmans ni juifs n'ont intérêt à supporter et à aider cette droite du Christ. Et il est extrêmement fatigant, il est extrêmement triste, il est extrêmement symbolique et il est extrêmement parlant de constater que la droite qui est la plus combattue, c'est la droite du Christ. Le racialisme n'est pas combattu par les juifs. Il est combattu jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire que le racialisme est accepté s'il estime que les Noirs et les Arabes doivent partir de France, pas les Juifs. Donc le racialisme a une certaine marge de manœuvre. C'est pour ça d'ailleurs que les chaînes des racialistes ne sautent jamais. En revanche, ils n'ont pas accès aux grands médias. Vous voyez, c'est une utilisation partielle du racialisme. Donc oui, nous sommes d'accord avec vous, on va dire Les juifs sont d'accord avec les racialistes quand ils veulent dégager les noirs et les arabes, parce que ils finissent par se faire péter dans les hypercachères. En revanche, nous n'irons pas jusqu'à vous officialiser, car votre volonté d'épuration ethnique finira par concerner les juifs. Donc le racialiste, qui est un macroniste, qui n'aime pas les noirs, a le droit d'exister, donc sa chaîne n'est pas supprimée, à condition qu'il ne prenne pas trop de pouvoir. Et c'est parfait parce que, comme le racialisme induit des prédispositions et des mœurs très spécifiques, c'est souvent des gens qui ont un palier de verre, un plafond de verre, qui ont un palier qu'ils ne peuvent pas dépasser. Donc, impeccable. Impeccable. De l'autre côté, vous avez, le musulman qui, lui, ne peut pas valider le racialisme, mais qui est quand même un bon instrument de concurrence et de destruction du catholicisme. C'est-à-dire qu'en fait, la présence des musulmans induit que la pression qu'ils exercent vient marcher sur les plates-bandes d'un christianisme malade. Malade non pas à cause des juifs ni à cause des musulmans, malade tout simplement à cause de la postmodernité et de l'influence de la loge qui a détourné le cours de l'histoire française. C'est-à-dire, alors évidemment, la loge est baignée de préceptes talmudiques, mais le judaïsme ne se résume pas au Talmud. Vous avez les juifs de la Torah qui sont tout à fait validés par le christianisme qui attend qu'il soit en état d'être converti, d'avoir la révélation que le Christ est bel et bien le Fils de Dieu et que la Torah n'était qu'une... La Torah, c'est l'Ancien Testament, en fait. Hein. Ce n'était que la première partie du message et on est dans l'attente qu'il se rende compte qu'il y a la deuxième partie du message. En revanche, le talmudisme ne peut pas être validé par le christianisme. Parce que, enfin, à part par les protestants, mais le Talmud ne peut pas être validé par le christianisme, parce que, par le catholicisme ou l'orthodoxie, d'ailleurs c'est l'orthodoxie qui est la plus violente à l'égard du talmudisme, pour la bonne et simple raison que le talmudisme est anti-chrétien. Il est d'essence pour nous les chrétiens, ce n'est pas la façon dont le voient les juifs, mais je suis obligé de le dire en tant que catholique, pour nous les chrétiens, le Talmud, tout comme le Coran, sont d'émanation satanique. Alors, je ne veux pas insulter votre foi si vous êtes juif ou musulman et que vous écoutez ce podcast parce que Jésus n'aime pas qu'on heurte les gens par facilité, mais par devoir de vérité auprès des miens, c'est-à-dire auprès des gens qui pourraient être catholiques ou qui pourraient être séduits par le christianisme, je suis obligé d'affirmer ces deux conceptions-là catholiques. Pour nous, l'islam est un faux message, tout comme pour les musulmans, le christianisme est un faux message, et le judaïsme est un message incomplet ou un faux message quand on y inclut le Talmud. Et donc, on ne peut pas faire route ensemble vers un retour de la nation. Voilà. Donc, vous avez cet autre côté qui, en fait, est toléré, puisque si jamais l'État profond avait voulu se débarrasser d'Alain Soral, ça aurait été fait depuis longtemps. Hein. Je veux dire, il y aurait eu vraiment beaucoup plus d'acharnement. Il y a de l'acharnement, attention, hein, je ne dis pas que c'est un chemin pavé de facilité. Mais disons que si l'État avait voulu s'occuper sincèrement d'Alain Soral, son site aurait été fermé et tutti quanti. Bon. Donc, si vous voulez, il y a une permission d'exister parce que cette droite islamo-compatible n'est pas complètement dommageable à la loge dans sa volonté de détruire le christianisme, puisque le but, c'est de détruire le Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des droites. Il y a un seul chemin qui est ni droite ni gauche, c'est le chemin du Christ qui va avec le royalisme, puisque si on croit à la royauté du Christ, on croit en la royauté de certains hommes qui sont les légataires de ce message dans les nations. Et vice-versa, d'ailleurs, si on est royaliste, si on croit à la royauté des hommes, on ne peut croire qu'en la royauté du Christ, qui est la royauté des royautés, d'où la mention de roi des rois pour parler du Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, Qu'on le veuille ou non, qu'il y ait objection ou pas de tel intellectuel de droite, de tel youtubeur de droite qui considère que le Christ n'y a rien, qu'on le veuille ou pas, je viens de vous démontrer par A plus B, sans qu'il y ait possibilité de répondre à ce que je viens de dire, autre chose que quelque chose de partial ou de malhonnête, qu'une fois qu'on a ces vérités en tête, il n'existe plus qu'un chemin vers la France, c'est celui du Christ. Il n'y a pas de chemin viable à long terme pour la France sans passer par le Christ. Qu'on le veuille ou non, que ça vous plaise ou pas d'aller à la messe, que vous ayez envie ou pas d'adhérer au message christique, que vous vous réclamiez de je ne sais pas quelle obédience, odinique, je ne sais pas quoi, ou gréco-romaine, pagane, ou hyperboréenne, ou ce que vous voulez, il n'y aura pas de retour à la francité et à la France sans embrasser les pieds du Christ, sans se tourner vers la croix. Ça, à un moment, il va falloir que cette droite de merde, laïcarde, que j'encule, il va falloir que cette droite laïcarde, que j'encule, se mette dans la tête hein, qu'il n'y a pas de combat pour la France sans passage par le Christ. Nous avons une droite CNews aujourd'hui qui va interviewer des homosexuels qui ont des choses à reprocher aux Arabes. Mais rien du tout à Macron, rien du tout au vaccin, rien du tout à l'aide à l'Ukraine, rien du tout à la taxe carbone, rien du tout au climat. La vidéo du Raptor qui a été un véritable test, qui a été véritablement... vous savez, la vidéo du Raptor sur le climat, déjà les gens sous-estiment le courage et les couillons qu'il a fallu au Raptor pour faire une vidéo pareille et le travail que ça a demandé. Quand il a fait cette vidéo, il a été le roi Arthur qui sort l'épée du rocher. C'est-à-dire, maintenant, le monde se divise en deux. Ceux qui reconnaissent que l'épée a été sortie du rocher et que donc le roi est le roi légitime puisqu'il a brandi cette épée. Et ceux qui ne croient pas que cette épée ait été sortie du rocher pour des raisons de destinée. Pour ceux qui connaissent un petit peu la légende du roi Arthur, de la table ronde, et du fait qu'il ait sorti l'épée qui a unifié les hommes autour du projet fondateur de la Grande-Bretagne. Vous savez que la légende de la fondation de l'Angleterre, c'est le roi Arthur sort l'épée du rocher. Plein de rois ont essayé, mais c'est le roi Arthur qui sort l'épée du rocher. Et c'est autour de cette possibilité de sortir l'épée que se sont regroupés les hommes de bonne volonté qui ont fondé l'Angleterre, la vraie. Puisqu'avant, elle était disputée par plusieurs factions qui n'étaient pas toutes de la même obédience. Et c'est la reconnaissance que le roi Arthur est le roi légitime de Grande-Bretagne qui a fait que Gauvin et tous les rois et Ivanhoé, pas Ivanhoé, oui, si, si, Ivanhoé et tous les autres ont... non, je ne sais plus si Ivanhoé fait partie des... Il y a Yvain, il y a Gauvin, il y a comment il s'appelle d'ailleurs les chevaliers de la table ronde ils sont dans la série de Astier. Bon bref, j'ai complètement oublié. Moi je suis beaucoup plus sur la chanson de Roland que sur les chevaliers de la table ronde, mais vous avez compris la symbolique. Le Christ, c'est un point d'ancrage qui départit un cercle dans lequel vous êtes ou vous n'êtes pas. Il n'y a pas de ouais mais moi je suis quand même pour la France mais je suis pas dans le cercle du Christ. Non. Tu t'es trompé, t'es pas dans le projet français. T'es dans le projet d'Odin, t'es dans le projet de Jupiter, t'es dans le projet de Bouddha peut-être, hein, t'es dans le projet de ce que tu veux, t'es pas dans le projet français. C'est comme les juifs et les musulmans qui disent « Ouais, je suis patriote français, mais Allah, mais Yahvé. » Ben non, en fait. Ben non, mon pote, non. La France, ce n'est pas Yahvé ou Allah. La France, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc, tu peux être orthodoxe et français, tu peux être de religion orthodoxe et patriote français, d'ailleurs l'orthodoxie est une religion nationaliste, hein. Tu peux être catholique et patriote français, tu peux être protestant et patriote français, tu ne peux pas être autre chose et patriote français. Ça n'existe pas. Tu peux être à la limite non affilié religieusement parce que en fait, tu as quitté telle religion, tu te poses des questions et tout. Là, effectivement, tu peux donner quelque chose pour la France, mais il n'y aura qu'un seul chemin, c'est le Christ. Et donc, je vous disais, cette vidéo sur le climat, elle est d'une importance capitale parce qu'elle est venue mettre sur la table la question de la droite, du droit-tardisme ou pas. Qu'est-ce qui te différencie d'Emmanuel Macron? Si tu es pro-Ukraine, pro-vaccin, pro-climatisme hystérique, Qu'est-ce qui te différencie de Macron? Tu n'aimes pas les Arabes? Ben lui non plus. À l'Élysée, il n'y en a pas. Il ne vit pas avec eux. Donc rien ne te différencie de Macron. Macron ne vit pas dans la cité du 93. Quand tu es d'accord avec tout, sauf avec les Arabes, ben tu t'appelles Emmanuel Macron. Tu n'es rien de plus que tout ça. Vous savez? Et c'est souvent d'ailleurs une droite qui a une méconnaissance de la France et de ses territoires. Parce qu'en fait, toute droite qui n'est pas baignée de conception chrétienne est en général une droite déconnectée du terroir. Parce que quand tu t'intéresses deux secondes au terroir, la chrétienté arrive immédiatement. Tu es breton, normand, toulousain, ce que tu veux, bam, il y a la chrétienté. La putain de croix occitane, que Dieu la bénisse, est une croix. Elle est rattachée au Christ. La chanson de Roland est née dans les Pyrénées. Elle a été popularisée par les troubadours occitans. Donc l'identité occitane est indéfectiblement liée au christianisme. Je ne vais encore moins le dire pour les Bretons. Les Bretons sont profondément liés au christianisme. L'hermine qui est présente sur le drapeau breton, c'est comme ça qu'on les appelle, je crois, les hermines, sont des symboles chrétiens. Les Normands et leurs deux lions, c'est les lions de quoi? C'est les lions de Guillaume le Conquérant, qui était un chrétien et qui a d'ailleurs exterminé les derniers pseudo-paganes de Grande-Bretagne. Donc, si vous voulez, tout la croix de Savoie. La croix de Savoie, le symbole de Saint-Jean de Maurienne, avec la main papale. Non, mais attendez, tout en France crie le Christ. Ne parlons pas de la Picardie, de la Bourgogne, le lion des Flandres, le lion biblique. Enfin, je veux dire, tout dans la symbologie française, y compris les Corses, la testa mora, n'en déplaise aux Corses, qui ont toujours des explications farfelues pour expliquer leur drapeau. Il faut lire un livre d'histoire. Hein. La testa mora est un cadeau d'un capitaine aragonais qui a décapité un général musulman dans une bataille en Aragon et qui l'a offert à une princesse corse comme signe d'amitié entre la maison d'Aragon et l'île de beauté. Il faut savoir que l'Aragon est resté 3 siècles en Corse. La première fois qu'on voit une testa mora sur une héraldique, c'est en Aragon. Voilà. Et d'ailleurs, le drapeau de Sardaigne est un drapeau aragonais. Dans les héraldiques aragonaises, la première testa mora qu'on voit, elle est tirée du drapeau sarde, qui sont 4 testa mora avec une croix rouge sur fond blanc. Bon, mais ça, c'est un drapeau aragonais. Donc, si vous voulez, tout en France est un symbole de triomphe, est un symbole de triomphe de la chrétienté. Le drapeau provençal, qui est en fait les armoiries provençales, qui sont en fait les armoiries de la maison d'Aragon, ou même le poisson qu'on retrouve à Aubagne, à Marseille, est un legs de la pêche miraculeuse, donc de conception biblique, d'image biblique. Les quatre bandes rouges sur fond or, vous connaissez la légende, c'est Bégut, je ne sais plus comment il s'appelait, Bégut, l'Aragonais. Alors à chaque fois, les Catalans et les Aragonais se disputent ce personnage qui aurait été blessé pendant une bataille contre les Arabes et qui aurait mis sa main sur une blessure au ventre et aurait, avec ses 4 doigts, tracé 4 lignes sur un écu d'or, fondant le drapeau aragonais et puis par la suite catalan et puis par la suite provençal. Bon, tout ça, ce sont des traits d'union à la culture chrétienne. Il n'y a pas de France sans Christ. Le vin, les Celtes étaient de grands amateurs de vin. Ils ont révolutionné le vin. Parce qu'ils ont corrélé le vin, alors d'abord à des sacrifices, ils coupaient des amphores pour éviter de couper des têtes, donc le vin se répandait sur le sol, et ensuite, via la christianisation, c'est devenu un terreau très très fertile pour les Celtes, d'adhésion au Christ, le sang de la terre, le fameux sang de la terre. Donc si vous voulez, le droitard de merde que j'encule, qui n'est pas dans la promotion stricto sensus du catholicisme et du christianisme comme étant un terreau fondateur de l'identité et de la notion même de France est un menteur, est un tricheur. C'est un tricheur. Si le Christ n'est pas au centre de ta vie, enlève-toi la France de la bouche. Tu ne participes pas à la reconstruction de la France ou à la reconstitution de la France. Tu participes à la reconstitution peut-être du Troisième Empire républicain, qui était déjà miné par la décadence en réalité. Hein. Il y avait déjà beaucoup de décadence au XIXe siècle. Tu es dans la restauration du village gaulois. Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Revenir à Belénos, ne pas savoir quelle tribu gauloise se trouve à 3 km de la tienne, pourquoi pas ? Bon, moi, c'est pas mon projet. Et puis après, il y a le putain de projet central. Il y a le putain de projet de toujours. Le projet du Moyen-Âge. 1000 ans. 1000 ans d'un système qui n'a pas été remis en question. 1000 ans d'un système qui n'a été ébranlé que par la survenue du schisme protestant et donc de l'alliance avec... les Turcs, et donc du coup de l'importation de la franc-maçonnerie, patati patata, et de la survenue de la modernité. Pendant mille ans, l'Europe a été imprenable parce qu'elle était entièrement dévouée au Christ. Voilà, fin du débat. Tout ce que vous aimez de la France, tout ce que vous trouvez de beau en France, est une fabrication médiévale, donc une fabrication chrétienne. Que vous le vouliez ou non, tout ce que vous défendez est une émanation du christianisme. Y compris votre langue, y compris beaucoup de choses, en fait. Donc, si vous voulez, toute personne qui exclut la question chrétienne et qui ne la met pas au centre de son putain de combat, est dans une imposture crasse. Voilà. Ça, c'est la triste et stricte réalité. Voilà. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, il va falloir arrêter de mettre le Christ dans une considération secondaire. Ouais, mais d'abord, il faut qu'on soit tous blancs pour redevenir chrétiens. Non, d'abord, il faut qu'on soit tous chrétiens pour pouvoir dire aux gens qui ne le sont pas qu'ils n'ont rien à faire ici. Si on n'a que des blancs et qu'il n'y a que de la laïcité, eh ben, ça laissera de l'espace politique pour que des gens qui ne sont pas chrétiens s'installent et prospèrent en France. Et du coup, finissent par avoir un poids politique. C'est parce que nous sommes un pays laïque que nous sommes condamnés. C'est parce qu'on continue à avoir de la laïcité que nous ne sommes pas prêts de nous débarrasser des autres segments religieux qui dictent leur loi en France. Que ce soit parce qu'ils sont organisés via le dîner du Christ ou que ce soit parce qu'ils sont nombreux via la démographie comme pour les musulmans. Je veux dire, à un moment, je vous ai fait une démonstration, maintenant il faut fermer sa gueule. Il faut fermer sa gueule. Il n'y aura pas de « oui, mais attends, mais la France, c'est aussi… » Non, ta gueule. Trouve-moi quelque chose de plus solide. Trouve-moi une période où la France a été plus resplendissante en étant inébranlable que le Moyen-Âge. Parce qu'il y en a qui vont me dire « oui, la Troisième République, on a un empire colonial. » Ben, l'empire colonial, c'est le début de la merde. C'est parce qu'on a des citoyens qui sont musulmans qu'on va commencer à se poser la question des musulmans en France. C'est parce que nous avons… un département algérien que nous avons des Algériens en France. Avant ça, nous n'avons pas d'Algériens en France. Pourquoi ? Parce que le Christ. Et qu'un barbaresque est un barbaresque. Donc, si vous voulez, voilà. Alors oui, il y a eu des Kabyles chrétiens qui sont alliés à des souverains français pour aller attaquer la piraterie. Donc, tant mieux. Si vous voulez, ça laisse de la place pour des gens qui ne sont pas forcément franco-français d'avoir une... vous avez bien compris que je parle de mon pote, le Raptor. C'est historiquement, il y a de la place pour des gens qui ont pris pour alliés les chrétiens les Libanais maronites. Les Libanais maronites étaient les alliés des chrétiens en Terre Sainte. Pareil pour les Alaouites en Syrie. Donc, si vous voulez, il y a de la place pour des extra-européens en étant dans le Christ. En étant dans le Christ, voilà. Ça ne veut pas dire, contrairement à ce qui est tout le temps affirmé pour décrédibiliser mon discours. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont pas envie d'aller à la messe. Donc ça devient, oui, ce que vous propose Papacito, c'est une France avec 50% de Congolais qui croient en Dieu. Je n'ai jamais dit ça. Non, jamais dit ça. Moi, je crois en une France où on se débarrasse des éléments perturbateurs. On garde le meilleur qu'a à nous proposer. On ferme le robinet migratoire. On garde le meilleur de ce qu'il y a parmi les extra-européens qui sont en France. Et on expurge 80% de leur communauté qui sont soit des tirs au flanc, soit des gens qui n'ont rien à faire ici. Voilà. Et je vous garantis qu'on redevient une France agréable qui est une France de proportion acceptable. Voilà, France 98, oui, il y a Zidane, il y a Desailly, il y a Trezeguet, puis il y a tout le reste. Et ça se passait très très bien et on y a cru. Voilà, donc si par-dessus ça, on met du catholicisme, enfin imaginez France 98, ils sont tous à genoux sur la pelouse avec l'abbé Raffray, qui leur donne la bénédiction avant le match. Bon, mais c'est bon, on est heureux, on est dans une France heureuse. Vous n'allez pas me dire que quand vous regardez Desailly, vous voyez la même menace que quand vous regardez Hamedi Coulibaly. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Quand Desailly, quand Marcel Desailly ouvre la bouche, c'est pas Kylian Mbappé que je trouvais sympathique jusqu'à qu'il finisse par, par être extrêmement, se révéler extrêmement anti-français. Donc, si vous voulez, voilà, il y a un point qui n'est pas dépassable, qui est l'adhésion au Christ. Tu n'adhères pas au Christ, va bien te faire enculer parce que tu ne seras jamais une solution sur long terme. Que vous le vouliez ou non, ce ne sera pas une solution sur long terme. Il n'y aura pas de « oui, l'LGBT pro-France, ta gueule, t'es pro-CNews ». Parce qu'en fait, Pascal Praud va pas te regarder la, de la même façon que l'inquisiteur Bernardo Guy. Tu vois, si tu déboules à Carcassonne en 1112, tu vois, et que tu dis « ouais, moi je me sens occitan, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire de l'enculette hein, une question centrale ?» Bon, ben Bernardo Guy, il était en train de gratouiller un grimoire avec une plume d'oie, tu vois, plongée dans l'encre. Il va fermer son bouquin et te regarder insistamment pendant plusieurs minutes hein, parce qu'il n'a pas exactement bien compris la phrase que tu viens de lui lâcher, tu vois. Le mec, il a été envoyé par l'ourle-pape pour traquer les putains d'hérésies à Carcassonne. Tu déboules pas en lui disant « ouais, moi je représente la section carcassonnaise de l'encul, si tu veux ». Tu vois, Gros Saint-Louis, quand il édifiait des belles et grandes et magnifiques cathédrales sur les territoires nationaux, il n'y a pas Fifou LGBT ou Fifou Mahométan qui déboule et qui lui dit « Eh, Saint-Louis, franchement, Psartec, la cathédrale, est-ce que tu veux faire une mosquée ?» Oh, Saint-Louis, il est mort aux croisades. Il n'est pas mort à la Gay Pride ou dans une réunion soralienne. Saint-Louis, il est mort à Tunis. Il est mort parce qu'il était en train de taper sur la gueule les musulmans, en fait. Ça, il faut que je rappelle ce petit fondamental, quand même. D'accord ? Le comte Raymond VI de Toulouse, quand il est rentré de croisade, il a mis des taloches à un rabbin, si vous voulez, à la fête des fleurs de Toulouse, le soufflet du juif. Bon, mais ça, c'est des réalités qui sont un peu tristes, un peu dures à entendre pour les juifs et les musulmans de France. Mais en fait, la putain de réalité, elle est là. Alors après, quand la France redeviendra catholique, eh ben on reviendra à ce qu'on appelait le droit de situ. C'est-à-dire, si t'es un juif, bien sous tout rapport, que tu n'as pas un Talmud sous l'oreiller et que t'es un musulman qui est là pour vendre des tapis et que, en fait, tu casses pas les couilles avec le menu halal et que tu veux pas t'établir et scolariser tes enfants à l'école ailleurs que dans une madrassa... d'Alger, si tu veux, il n'y a aucun problème. Tu vois, vas-y, viens faire du commerce. Tu vois, c'est pareil pour les juifs. Ils ont été vecteurs d'innovation. Vas-y, mec, il n'y a pas de problème. Par contre, le Talmud, tu te le mets au Trophignac. Ah, je suis obligé de te le dire. J'ai beaucoup défendu le leg technologique et innovant qu'ont laissé les juifs en Occident parce qu'ils ont laissé un leg technologique et innovant qu'on ne peut pas leur enlever. Qui ont participé à la suprématie de l'Occident. Mais le Talmud a autant fait de dégâts que la Torah a fait du bien, si vous voulez. Donc, il y a la question qui se pose. Donc, en fait, oui, venez faire du commerce, venez innover. Par contre, il n'y a plus de dîner du CRIF. Il n'y a pas Saint-Louis, tel rabbin claque des doigts et il vient prendre les consignes, si vous voulez. Ça, on ne peut plus le faire. De la même manière qu'il faut que vous soyez maître chez vous en Israël, il faut que vous nous laissiez être maître chez nous en France. Et être maître chez nous, c'est être des catholiques. Ok, donc si vous voulez le droit tardisme, oui la parole circule entre les colonnes, Pascal Praud, le franc-mac de je sais pas quel degré et pote avec tel autre franc-mac qui est du Parti Socialiste, hein, ça va être fini. Parce que si tu veux, sous le roi Philippe le Bel, la franc-maçonnerie templière ça a fini par flambusquer. D'accord, les mecs ont fait un feu de joie en fait. Ça il faut que vous le compreniez. Le retour du catholicisme, c'est des feux de joie, c'est des flammes de 30 mètres, j'en ai déjà parlé dans mes bouquins. Il va falloir que vous le compreniez, ça, parce que ça, oui, non mais là, ma France à moi, c'est si ta gueule, en fait. Ta gueule, ta grosse mère, la pute, il n'y a qu'une seule France, c'est pas la tienne, c'est celle de Saint-Louis, en fait. Il n'y a pas d'autre France, il n'y a pas d'autre France. Même Napoléon, que j'inclus des fois pour faire plaisir, c'est plus la France, c'est l'Empire, c'est autre chose. Il était à moitié franc-mac, enfin, il était même complètement franc-mac. Ça marche pas, il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des mecs avec des fezes turques sur la tronche qui font des trucs dans des sociétés secrètes à Paris. C'est le stress. Si vous voulez, la France, c'est un roi qui est à genoux devant le Christ. Point final ! Commencez pas. J'aime beaucoup mon ami Pierre-Yves Rougeron du cercle Aristote. Mais je lui dis, il le sait, moi je suis pas gaulliste, je suis royaliste, il le sait. Donc c'est pareil, la limite du gaullisme, c'est qu'à un moment, ça n'est pas la France. Le gaullisme, ça tergiverse avec l'OTAN, ça tergiverse avec des trucs auxquels il fallait pas tergiverser. Ok ? Nous, les royalistes, c'est pur, c'est Milan, c'est des cathédrales, la confiture de noix, c'est tout ce que vous aimez. C'est la chasse aux sangliers, c'est la chanson de geste, c'est les tapisseries des Flandres, enfin, c'est le régal en fait. C'est le régal. Donc commencez pas à aller chercher du truc. Ouais, mais moi, mais même les protestants, j'ai envie de vous dailler. Même les protestants, j'ai envie de mettre des balayages. J'ai essayé d'être gentil avec vous en début de podcast. Je peux pas l'être. J'y arrive pas. Vous faites des trucs bizarres. Vous êtes allié aux Turcs, putain de merde. Vous êtes allié aux Turcs. Est-ce que ça ne vous marque pas du sceau de l'infamie, quand c'est problématique, quand même. Un peu problématique. Donc, non, le Christ, Saint-Louis et le reste, ta gueule. Le reste, ta gueule, en fait. Le reste, ta gueule, c'est simple. On communie et ça résout tout. Voilà, c'est ça notre communautarisme. C'est le Christ, en fait, si tu vois. Donc, c'est pour ça que je me suis dégagé de ce milieu d'enculé. C'est que je ne supporte plus tous ces mecs qui font semblant de pas comprendre que si la moitié des mecs qui te promeuvent sur ces news, c'est des francs-maçons, Dieu ne peut pas donner une issue favorable à cette droite. Dieu ne peut pas donner d'issue favorable à des mecs qui passent sous des épées, qui vont raconter des trucs avec des crânes, avec des bougies au-dessus et qui finissent par bouffer du fœtus au 33e degré, si tu veux. Il y a un énorme problème. Hein. C'est pour ça qu'ils sont pas venus à Montjoie. Voilà, un paysan catholique défendu par un influenceur catholique. J'y arrive pas parce que Jean-Michel Baillet, il est pote avec des mecs de CNews. La réalité, elle est là. La limite, on l'a vu. L'impossibilité pour certaines chaînes de droite de traiter correctement le sujet de Montjoie, c'est qu'au bout du bout, t'as des liens avec Jean-Michel Baillet, via la loge. Donc Jésus-Christ, dans ce cas-là, il est où ? Il est pas là. Eh oui, bande d'enculés. Donc toutes les petites merdes qui nous font un cirque là en disant « Ouais, non, mais le christianisme... Regardez, on a fait un sujet sur le pèlerinage de Chartres. Regardez... Ouais, mais c'est pas ça, mon pote. Non. C'est les sujets qui fâchent. Ils sont où, les grands reportages sur les liens entre la République et la franc-maçonnerie ? Ils sont où, les grands reportages sur les petits arrangements entre maires, qui peuvent être aussi des fois des maires d'extrême droite ? Il y a des maires qui sont considérés comme d'extrême droite, hein, qui se sont couchés. Le maire de Moissac, au début, il était avec nous. Bon, mais Jean-Michel Baillet l'a convoqué. Il a siégé. Il y a eu une photo où il a siégé avec le maire de Montjoie, avec Christian Urgal. Il y a eu une photo, union sacrée des maires contre l'extrême droite. Mais c'est pas extrême droite qu'il faut comprendre, parce que le maire de Moissac, il est d'extrême droite, c'est contre le Christ. C'est ça qui est combattu, c'est ça qui n'est jamais promu. Quand est-ce que vous allez comprendre que la seule voie, c'est ça, putain ? Et je m'échine podcast après podcast à le démontrer par A plus B, et putain, ça ne prend pas. Donc vous méritez ce qui vous arrive. Donc en fait, le seul moyen de sortir de cette merde, ce sera que la France aille au fond. C'est pour ça que je ne m'en occupe plus. Il va falloir qu'on touche le fond du fond pour que vous compreniez, quand. Putain, on a envie de cathédrale quand t'as les Arabes qui sont aux portes. On a envie de cathédrale quand t'as les Juifs qui ont empoisonné les puits. Tu te dis, putain, mais quel enfer ! Il est où le paradis là-dedans ? Et là, il y a un abbé qui arrive avec le profil de l'abbé Raffray qui est très rassurant. Quand vous regardez l'abbé Raffray, vous avez envie d'adhérer à ce qu'il vous raconte. Il a un nez aquilin, il a une tête, tu sais pas si c'est un joueur de Jayalay ou si c'est un espèce de Christeros mexicain moitié irlandais, voyez. Il a une arête nasale qui te donne envie de lui faire confiance. C'est pas une arête nasale que tu gagnes dans le désert. C'est une arête nasale qui se gagne entre entre les montagnes du Pays Basque et les rives du Rio Grande, si tu veux. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, à un moment, il y a ça. Tu vois, il y a des mecs comme ça qui arrivent et tu as envie d'adhérer. Mais pour avoir envie d'adhérer au message du Christ, il faut que tu aies ramassé. C'est pour ça qu'on n'y coupera pas. Il faudra que Dieu atomise la France. Je suis désolé de vous le dire. Hein. Ça va continuer parce que on pourrait se poser la question. Putain, avec toutes les conneries que font les musulmans toute la journée, avec tous les trucs antinationaux que font les juifs soi-disant patriotes, qui finissent par aller foutre ou aider des gouvernements qui sont antichrétiens, avec toute cette droite. Récemment, il y a eu une droitarde qui s'est fendue d'un message anti-arménien. On en est là. L'Arménie est la première nation chrétienne. Vous avez des droitardes qui viennent fustiger la communauté arménienne d'être soi-disant des bougnoules mentaux parce qu'ils feraient la promotion du Christ de manière comme les musulmans. Mais non, mais justement. Justement, les Arméniens, les Libanais, les chrétiens d'Orient, les chrétiens grecs sont là, et souvent ce sont des gens d'ailleurs, pas tous, hein, mais ce sont souvent des orthodoxes, hein, ils sont là pour nous rappeler à quel point l'orthodoxie est centrale dans la lutte à la fois contre le communisme, la décadence. C'est pour ça que l'orthodoxie est intéressante du point de vue historique, parce que le catholicisme a eu à lutter contre le communisme, mais de manière pas aussi massive que l'orthodoxie. L'orthodoxie a été pratiquement détruite et fortement attaquée par ce que la gauche avait de plus puissant, c'est-à-dire l'URSS. Voilà, l'orthodoxie a connu les invasions turciques, donc la lutte contre l'islam, mais aussi la lutte contre le communisme. Alors que nous, les catholiques, notre lutte contre le communisme a toujours été, alors sauf pour les Polonais hein, qui ont été inclus dans l'URSS et qui sont des catholiques, mais si vous voulez, nous, les catholiques, le communisme a été une lutte qui s'est faite à l'extérieur. Elle s'est fait à Cuba, elle s'est fait par la guérilla. Bon, ce n'est pas le gros bloc, ce n'est pas le rouleau compresseur de l'URSS. Voilà. Donc l'orthodoxie a ceci d'intéressant. C'est pour ça que j'ai toujours des mots gentils pour les orthodoxes. Hein. Même si nous sommes dans des religions différentes, nous sommes des frères en Christ et j'ai toujours un mot de fraternité pour eux parce qu'ils ne sont pas dans une voie de garage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un orthodoxe qui vous dit « je suis pour la résurrection de la France » n'est pas un antinational. Un athée, un musulman, un juif talmudique ou ce que vous voulez qui vous dit « je suis un patriote français » vous ment ou ne se rend pas compte qu'il vous ment. Voilà, parce que même s'il est sincère, il ne se rend pas compte qu'il est dans une voie de garage. Donc voilà les amis, voilà, tant que vous n'avez pas... le Paul, il est là. Le Paul, il est là. Es-tu prêt à critiquer de manière ouverte et prolongée la franc-maçonnerie? Parce que les Arabes, la franc-maçonnerie te laissera faire. Si tu critiques les Arabes, la franc-maçonnerie te laissera faire. Si tu es pro-laïcité et que tu critiques l'immigrationnisme ou Macron, on te laissera faire. À partir du moment où tu dis le Christ est rien d'autre et donc du coup la franc-maçonnerie n'est pas un allié, ta chaîne va sauter, tu vas être marginalisé, tu vas être combattu et par la droite soralienne et par la droite racialiste ou CNews qui en fait a beaucoup de ponts. Voilà. Et en réalité, Soral est quelqu'un de très intelligent, il sait pertinemment, il le sait parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Mais il n'est pas réellement chrétien. On l'a vu à plusieurs reprises. Hein. Il a eu des mots très très durs à l'égard des chrétiens. Il le sait. C'est quelqu'un de beaucoup trop analytique et intelligent pour ne pas avouer que cette espèce de front de la foi est une énorme bouillie qui est un mélange de merde et de couscous garbite. Voilà. Et s'il n'y avait pas autant d'ego. Ce qui est impossible hein, avec quelqu'un comme Alain Soral et à l'âge qu'il a. S'il n'y avait pas autant d'ego, il y aurait une vidéo, il y aurait « Écoutez, je me suis trompé, j'ai essayé quelque chose qui avait le mérite de devoir exister pour qu'on comprenne que ça ne puisse pas marcher. Il n'y a pas de retour à la France possible dans une alliance avec l'islam. » Il le sait au fond de lui. D'ailleurs, il est parti dans un pays où il y en a très peu, qui est la Suisse. Il ne veut pas vivre avec eux. Il le sait. Il n'y a pas de France sans Christ. Parce qu'en fait, il nous fait croire qu'il y a une France sans juifs, mais avec 18 musulmans. C'est faux. Et il le sait, hein, il le sait. Mais si vous voulez, par ego, après avoir clashé comme ça autant de chrétiens, il ne peut pas se mettre devant une caméra et dire « Effectivement, mon alliance avec la civilisation de la date kéfir était une erreur, et il faut embrasser le Christ, et en dehors du Christ, point de salut, il ne peut pas faire ça. Et s'il le fait, il ajoutera un bon mot pour les musulmans en disant « Mais ils sont pas anti-chrétiens, il y a Jésus dans le Coran. » Jésus dans le Coran, ce n'est pas le Fils de Dieu, donc c'est annulé. Jésus, c'est soit le Fils de Dieu, soit ce n'est rien. Ok ? Voilà. Donc si tu es un chrétien, Jésus le Fils de Dieu, si Jésus le Fils de Dieu, tu n'as plus rien à dire à un musulman, tu n'as plus rien à dire à un juif. Quand je dis tu n'as plus rien à dire, tu peux être hospitalier avec un musulman. Moi, il y a un musulman qui vient chez moi, je vais tout faire pour qu'il soit à l'aise, je ne vais pas lui parler de religion parce que je ne veux pas qu'il se sente mal à l'aise. Maintenant, je ne vais pas lui raconter d'histoire, il ne peut pas faire partie du corpus national. Voilà. Donc voilà. Et en réalité, cette simplicité que j'affiche, elle est très dure à encaisser parce qu'elle force à se positionner dans quelque chose qui est inconfortable. Le christianisme demande d'aller à l'église, demande d'avoir une conception du monde religieuse. Et pour des athées dégénérés, c'est impossible. Pour des partouzeurs racialistes qui traînent avec des gens qui s'appellent Monsieur Caca, c'est impossible, si vous voulez. Voilà. Bon, ben, allez parler de Monsieur Caca à Saint-Louis. Ça finit à l'Inquisition. Ça, à un moment, faut le comprendre. Peut-être entre 3/4 et 4/5 des racialistes finiraient à se faire torturer dans les geôles de l'Inquisition. S'il y avait un retour de la véritable France. C'est la réalité. Parce qu'il y a de la partouze, il y a de la dégénérescence. Moi, j'ai quand même Diane Ouvry, qui est une collaboratrice que j'aime beaucoup, qui a été attachée parlementaire. Bon, elle, qui est dans le système républicain, sans y croire, hein, qui a été très très proche de nombreux politiciens, m'a parlé de deux racialistes de droite dont le jeu est de s'offrir des prostituées de luxe tous les mois sur lesquelles ils défèquent. Voilà. Vous comprenez ? Donc, comment voulez dire aux Arabes « rentrez chez vous » et aux Juifs « vous vous êtes trompés, le Messie est bien arrivé » ? Comment vous voulez être crédible quand, une fois par mois, vous consacrez 300 euros chacun pour pouvoir uriner sur une prostituée qui soit une 6 sur 10 ? Et ne pas éprouver une déchéance immédiate de votre âme et un sentiment de bassesse au moment où vous arrivez à déféquer dans un appartement parisien sur une femme, sur un enfant de Dieu, hein, parce que une prostituée, c'est certes une pécheresse, et on est tous des pécheurs à plus ou moins grand niveau, mais il y a un moment où vous êtes en train de déféquer sur un enfant de Dieu, en fait. Ok ? Et ces gens-là vont t'expliquer qu'il y en a marre des Arabes et des Noirs. Je suis pas sûr que ces pratiques-là soient très répandues. Je veux pas faire du soralisme à 10 balles, hein, mais je suis pas sûr que la sexualité des Noirs soit tourné autour de faire caca, ça c'est un délire de franc-mac bien blanc, bien locoderme. C'est à un moment, faut le dire. Je veux dire, l'industrie du porno, elle est protestanto-judaïque, enfin elle est plutôt judaïco-protestante. Donc, c'est des Hollandais. Voilà. Faire caca sur des meufs, les gaguer jusqu'à les faire vomir, on les a tous vus ces films porno, hein. Je suis pas en train de... Moi, c'est une addiction que j'ai laissée il y a très très longtemps, et ça a été quelque chose de révolutionnaire dans ma vie. C'est pour ça que j'en parle. Je ne vous fais pas la leçon en vous disant, moi je n'y ai jamais touché, attention, hein. Moi, adolescent, il y a eu du porno dans ma vie. Heureusement, grâce à Dieu, il y avait du contact avec des vraies femmes, et donc il y avait de la distance avec ce porno, avec la pornographie. Heureusement. Mais je parle pour les générations modernes qui ont peut-être moins accès aux femmes et qui ont beaucoup plus facilement accès au porno. Moi, je fais partie d'une génération qui a pu se fabriquer une sexualité sans pornographie. Donc, si vous voulez, j'ai eu cette chance-là. Mais le porno a été dans ma vie, hein. Je suis pas en train de vous faire la leçon en me plaçant au-dessus, hein. Moi, je connais les codes du porno. J'ai vu des pornos extrêmement violents, et c'est parce que j'avais une attache au réel et quand même une conception spirituelle de la vie que j'ai pu m'en décaler. Je me disais dans ma tête, je ne peux pas regarder des mecs outrager des femmes de manière très très violente et ne pas réagir. Une femme, c'est un enfant de Dieu. C'est potentiellement une petite fille, ça a été une petite fille. Ça sera potentiellement une mère, ça sera potentiellement une grand-mère. Ça peut être la sœur d'un homme, ça peut être la femme ou l'ex de quelqu'un. Donc on ne peut pas lui faire tout et n'importe quoi, et c'est pareil pour un homme. Et ça, c'est Dieu. Qu'est-ce qui vous empêche de considérer qu'un être humain ou une femme n'est pas un sac de viande qu'on peut outrager parce que, en fait, parce que si vous voulez, quand on enlève Dieu de l'équation, ben, on n'est plus que des organismes vivants, il n'y a pas la question de l'âme. Donc en fait, je fais caca sur une femme dans un salon parisien en me masturbant, c'est ça qu'ils font. Hein. Ou je crois qu'ils lui font caca dessus, après ils la sodomisent. Un truc comme ça. Donc, vous imaginez, dans leur tête, en fait, tout ça est possible parce que ce corps de femme n'est qu'un corps biologique qui naît et qui meurt, et il n'y a pas la marque divine dessus. Donc, c'est pour ça que les racialistes sont dans des soirées très, très bizarres, très paganes, avec du caca, avec des trucs comme ça, parce qu'en fait, un sexe féminin n'est qu'un instrument de masturbation corporelle via aller-retour pour un pénis en érection, et n'est pas du tout la matrice de la vie, n'est pas du tout la dépositaire de quelque chose de sacré. Donc c'est pour ça, s'il n'y a pas Dieu, il y a décadence. Que vous les vouliez ou non, bande de petites merdes hérétiques, de merdes que j'exterminerai le jour où le... Parce que le jour où le roi revient, attention, hein, oui, les musulmans, les juifs, tout ce que tu veux, ils vont rentrer à la maison. Les racialistes, il va y avoir des purges, hein, parce que vous êtes dans des trucs sacrément sombres. Hein. Les paganos, je sais pas quoi, qui enculent des gonzesses dans des soirées d'éjection champignons hallucinogènes, il va falloir que vous répondiez de tout ça. Hein. Il va falloir que vous répondiez de tout ça. Hein. Moi, parce que moi, j'entends souvent des racialistes qui disent « Oui, quand la France va être purgée, on va s'occuper de toi, papacito, parce que tu es un traître racial. » Très bien. Ben, moi, je vous attends. Moi, je vous attends. Avec mon matériel et mes 20 ans d'anglaise et mon chien de 50 kilos. Il faudra venir me dénicher soit dans les Pyrénées, soit en Castille. Bon courage, les petites merdes parisiens, pour venir me chercher dans mon hood, hein, parce que là, je serai chez moi. Vous n'allez pas jouer à domicile. Hein. Les mecs qui me menacent en me disant « Oui, papacito, le traître racial. » Les petits PD de parisiens de merde racialistes qui me menacent toute la journée. Vous savez que quand Internet, ce sera... Si jamais votre camp triomphe et que c'est la poursuite des racials traîtres, ben, moi, je vous attends, hein. Moi, va falloir venir me chercher au col de l'Arex et en Castille. D'accord ? Et là, c'est comme dans Rambo. Là, c'est comme dans Rambo. Et la mauvaise nouvelle, c'est que je suis à la fois Rambo et je suis à la fois le colonel Trotman. Tu comprends le truc ? Donc déjà, je vais te faire une guerre comme tu n'en as jamais fait. Déjà, il y a un Rottweiler de 60 kilos qui va finir des sangliers au jarret, qui s'est fait ventrer par un sanglier qui a marché 7 km. C'est-à-dire qu'en fait, je t'explique, fils de pute, les menaces sur Internet de « Papacito est un racial traître, on va s'occuper de toi », eh bien écoute, je t'attends et je t'attends avec mon chien. Et pour info, mon chien, on a fait une balade de 3 km dans les Llanuras qu'il y a autour de mon village, d'accord ? Il a pris une éventration de 7 cm de profondeur sur 10 cm de large qui a nécessité une vingtaine de points et une opération in extremis après avoir perdu son sang. Il a marché 7 km, il a pris 1h30 de trajet jusqu'à Valence, il a été opéré par un chirurgien espagnol, donc autant te dire que c'est la chirurgie du Moyen-Âge, tu vois. Il est vivant et opérationnel. Il est en train de faire la sieste, hein, sous mon bureau à l'heure où je te parle. Donc si un sanglier de 150 kilos, parce que ça, vous le savez pas, bande de petits PD de la ville que j'encule, ça, vous ne le savez pas, mais si un Rottweiler, il y a un sanglier de 150 bars qui lui a mis un coup de défense de nuit à 7 km du domicile et 1h30 avant qu'il soit opéré, si le sanglier n'a pas pu le finir, c'est pas toi, petite merde, qui a jamais tenu une arme dans tes mains et qui a jamais une patate dans un nez, qui va faire quoi que ce soit avec ce clébard-là. Et ce clébard-là, c'est pas le maître. C'est-à-dire qu'il va d'abord falloir que tu te charges de Maximus et après, il y a moi, fils de pute. Après, il y a moi. Moi, je tire au K31 Schmitt Rubin depuis des postes couverts sur des sangliers en ayant mis du maïs et des apos à 150 mètres de mon poste, si tu veux. D'accord ? Je connais mes putains de Pyrénées, je suis à la maison. Hein. Moi, les randos avec Maximus, j'en fais depuis... Les randos, j'en fais depuis que je suis né, pratiquement, que ce soit avec mes parents, avec les copains, ou ensuite plus tard tout seul. Là, mon ami, c'est pas Internet. Hein. C'est pas Papacito le négrolâtre sur Twitter. Il va falloir que tu éteignes l'ordinateur, que tu fasses un trajet. À un moment, il va y avoir des courbes, les panneaux, ils sont un peu vieux. Bienvenue chez moi, mon pote. Hein. Bienvenue chez moi. Hein. Là, c'est pas la même. Hein. Tu sais, moi, j'ai vidé des sangliers. Hein. C'est-à-dire que toucher des organes avec les mains, aller couper les viscères qui relient la gorge, hein, la gorge à ce qu'on appelle le ver, c'est des trucs que je fais sans problème. C'est pas toi, petite salope, qui va faire quoi que ce soit. Hein. Ça, faut que tu le comprennes. Hein. C'est très simple. J'ai vidé des sangliers et j'ai boxé des noirs, si tu veux. À partir de là, qu'est-ce qui peut me donner de l'écœurement ? à part la comptabilité la comptabilité d'un juif à la tête d'une entreprise de porno ou les vidéos qu'il y a dans les ordinateurs des racialistes qui font des parties fines avec du caca, tu vois. À part ces deux trucs là, qu'est-ce qui peut me faire vomir, tu vois? Quand tu t'es tapé des engolés de 150 kilos sur le ring à Toulouse dans les galas de boxe à Toulouse et qu'après t'as vidé de sanglier, qu'est-ce qui se passe en fait? Je suis pas Superman, hein. S'il y a une force spéciale de l'armée française qui veut se charger de moi parce que c'est un racialiste et qui veut me retrouver, certainement qu'il va m'avoir avant que je ne l'aie. Mais toutes les petites merdes qui me menacent sur YouTube, qui posent des commentaires de petites salopes de racialistes que je croiserai jamais sur le ring, ceux-là, je les attends. Là, je les attends au perché dans mes Pyrénées ou dans ma Castille. Là, on va rigoler, mec. Là, c'est pas Internet, hein. Là, si tu veux, c'est des lames Alba Inox de 30 cm, tu vois. Et je les ai déjà essayées sur des sangliers que je suis allé servir. Tu vois, le moment où ça rentre et que ça fait un petit appel d'air, pff. Tu sais, quand tu rentres un couteau dans l'aine d'un sanglier, parce que pour le finir, il faut que tu rentres le couteau dans l'aine, ma main ne tremble pas, hein. Tu vois, c'est des trucs que j'ai déjà fait. Entre un animal qui risque de mettre un coup de sabot, qui peut te mordre, et une petite merde de 75 kilos... mal éduqué et qui n'a jamais fait de sport de combat, mon pote, je t'attends de pied ferme, voilà. Donc, et puis j'ai une thermique maintenant, je tiens à le signaler, j'ai une thermique, donc on va rigoler avec la Sabaty Urban Sniper là, chambrée en 306 là, on va rigoler. Bref, donc tout ça pour vous dire que à un moment, le Christ. Et quand le Christ va revenir, il y aura des comptes à rendre, hein. Non seulement pour les gauchistes, hein, mais pour tous les enculés qui ont été islamo ou judéo-serviles. Voilà. Donc, que Soral ne triomphe pas trop aussi, parce que celui-là, quand il faudra s'expliquer sur la dimitude est un régime de protection pour les chrétiens après tous les égorgements qu'il y a eu et tout. Ce sont des choses desquelles il faudra répondre, hein, parce que moi j'ai été plusieurs fois menacé par Soral qui disait oui, on fera des procès pour les judéo-serviles. T'inquiète pas, on verra ce qui se passe pour toi. Enculé de supplétif mahométan de merde, de vieux dégénéré par tous, qui fait des arrangements avec les avocats de Binti, moyens financiers pour pas que les infos sortent. Hein? Bref. Donc voilà les amis, tout ce qui n'est pas le Christ n'a aucune raison d'être écouté, plébiscité. C'est soit le retour de la France de Saint-Louis, soit la mort. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et tout ce qui n'inclut pas le Christ peut aller se faire enculer. Voilà. Vous voyez, elle est facile, la doctrine Papacito. Et c'est pour ça qu'ils me détestent tous. Et c'est pour ça que je fais plus d'interventions dans leurs médias de merde, parce qu'il n'y a pas Jésus-Christ. Il n'y a pas Jésus-Christ. Voilà. Il y a des interviews d'un tel. Tant qu'il n'y a pas Jésus, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la France, elle va être sauvée comment? Avec une armée d'abbés et le rétablissement de l'Inquisition et un roi de France qui va être intraitable. Voilà. Donc tous les orléanistes pro-franc-maçonnerie, tous les talmudistes, tous les mahométans et compagnie, à ce moment-là, ils ne sont pas raccord avec ce que c'est que d'être français. C'est-à-dire à genoux devant le Christ, sans compromission possible. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast particulièrement houleux. Il ne manquera pas de faire réagir toutes les petites merdes qui n'ont pas envie de s'agenouiller devant Jésus. Ce n'est pas grave, hein. J'ai fait mon boulot, moi je rends des comptes au patron, le patron il est aux cieux, le monde horizontal n'est pas content, il peut bien aller se faire enculer. Voilà. Pendant des années, j'ai expliqué où je me trouvais, personne n'est venu me chercher. J'estime que vous préférez donc me répondre via petite vidéo de peine à jouir, continuez à le faire. Ça ne me touche pas. Je suis dans le bon camp et je prospère. Voilà. À tous ceux qui communient en Christ, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous aime. Jésus vous aime. Jésus nous aime à tous. Et si nous lui rendons cet amour, c'est le paradis après cette épreuve terrestre. Je suis confiant quand je vous fais ces podcasts. Souvent, je les fais après la messe. Je suis inébranlablement confiant en notre Seigneur. Quelles que soient les épreuves, quel que soit notre niveau d'empêtrement, je sais qu'au bout du bout, c'est le triomphe, que ce soit dans cette vie matérielle ou aux cieux, comme ça nous a été promis. Il arrivera de toute façon et nous serons à la fin les vainqueurs. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Vive le Christ roi et à la prochaine, les amis.